Le texte que nous allons commenter se trouve dans le livre d'Isaïe au chapitre 8, du verset 23 au chapitre 9, au verset 3. En voici la lecture. Dans les temps anciens, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, la Galilée, carrefour des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Alors ce texte du livre d'Isaïe est intéressant parce que il nous montre d'abord l'intérêt de connaître un petit peu le contexte historique pour vraiment saisir la portée de cette prophétie. Alors, ce qu'il faut savoir, en gros, c'est que le livre d'Isaïe a été écrit, c'est en gros, hein, dans ses 40 premiers chapitres, par le prophète Isaïe lui-même. Avec quelques exceptions pour certains passages. Et évidemment, la période qui couvre ces 40 premiers chapitres est celle d'Isaïe, c'est-à-dire le 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors que si vous regardez à partir du chapitre 40, jusqu'à peu près, me semble-t-il, au chapitre 50, à moins que ce soit 56, il s'agit d'une période différente, c'est-à-dire la fin de l'exil qui s'est passée un siècle et demi plus tard de l'exil du royaume du sud, Juda. Et à la fin de l'exil à Babylone, forcément, le regard était différent et on appelle ce prophète le second Isaïe. Et les chapitres, oui, me semble-t-il, de 56 à 66, c'est ce qu'on appelle le trito Isaïe. Et là, ça serait plutôt la période juste au retour de l'exil, donc un tout petit peu plus tard, où les Juifs qui sont de retour de Babylone dans la terre d'Israël, sur la terre d'Israël, pardon, notamment à Jérusalem, se rendent compte de leurs difficultés et face au découragement, vous avez ce qu'on appelle le trito Isaïe, c'est-à-dire le troisième Isaïe, le deutéro Isaïe, donc chapitre 40 à 56, ça voulait dire deuxième Isaïe. Donc ce trito Isaïe encourage ses compatriotes à regarder au-delà des apparences. Alors ici, nous avons le chapitre 8, et là, visiblement, c'est un chapitre écrit par le prophète Isaïe lui-même, qui était un prophète tellement marquant qu'il a donc influencé ces deux autres prophète dont on ne connaît pas le nom, dont je viens de parler, et puis toute une école de prophètes. Alors, le contexte du prophète Isaïe lui-même, donc du chapitre 8, est le suivant. Alors, il y a eu, il faut savoir, deux exils en Israël. Celui qu'on connaît le mieux, c'est l'exil du royaume du Sud, qui s'est passé environ en 597 avant Jésus-Christ, une première vague, et puis l'exil définitif en 587, 10 ans plus tard, avant Jésus-Christ, avec la destruction du temple de Jérusalem. Mais il y a eu le royaume du Nord, qui est intervenu après la division des tribus du Nord d'Israël et qui ont quitté la dynastie de David et Juda et Benjamin, qui sont restés, dans le giron de la dynastie de David. Ça s'est passé après la mort du roi Salomon. Eh bien, nous avions donc deux royaumes. Et le royaume du Nord, dont la capitale était non plus Jérusalem, mais Samarie, hein, les Samaritains, ça éclaire aussi une partie du Nouveau Testament, on voit l'origine des Samaritains dans le deuxième livre des Rois. Donc, ce royaume du Nord va très vite se détacher du Seigneur et va rester beaucoup moins fidèle au Seigneur que le royaume du Sud, ce qui explique son exil un siècle et demi plus tôt, à peu près. Et voilà ce qui s'est passé. En 732 avant Jésus-Christ, le livre des Rois nous présente ça comme une sanction, parce que Israël s'était adonné au culte des faux dieux, etc. Il y a une première campagne avec un début d'exil, notamment des tribus de Zabulon et Nephtali qui couvrent effectivement la Galilée, connues sous ce nom-là notamment dans le Nouveau Testament. Donc les tribus de l'extrême nord du royaume d'Israël, ce sont les premières bien sûr à souffrir de ces invasions assyriennes et à connaître une invasion et une première déportation. Et puis avec Samarie, donc le reste du royaume du Nord, s'acharnant à tourner le dos à Yahvé, eh bien en 732, à peu près 10 ans plus tard, eh bien la sanction définitive tombe, le royaume du Nord est complètement déporté et c'est la fin du royaume d'Israël, de son indépendance. Alors non seulement les tribus du Nord sont déportées, mais on fait venir d'autres tribus, d'autres peuples, pour vraiment casser la dynamique d'Israël, et ce qui explique ce peuple qui va à la fois avoir des cultes païens et en même temps garder un semblant de religion de la terre d'Israël, ce sont les Samaritains. Donc vous avez ce mélange de tribus étrangères qui vont quand même essayer de maintenir le culte du Dieu dont ils occupent le territoire, et ils vont mélanger ça avec leur culte d'origine. Et quant aux Israéliens du royaume du Nord, de souche, si j'ose dire, beaucoup sont déportés donc dans le royaume d'Assyrie. Et ici, on comprend cette prophétie d'Isaïe. Donc lui, il voit d'abord cette vague en 732, où Zabulon et Nephtali sont durement affectés, envahis, une partie de la population déportée. C'est la première vague de honte pour le royaume du Nord d'Israël. Et ce qui est important, c'est qu'Isaïe, devant cette situation, et là il y a une leçon à retenir, eh bien il voit plus loin que les apparences, plus loin que l'histoire qui se déroule sous ses yeux, il voit vers l'avenir et avec un regard d'espérance. Et il y a déjà là une leçon pour nous. Parce qu'à l'image du prophète Isaïe, nous sommes appelés dans nos vies à avoir ce même regard. Au cœur de nos échecs, ou quand les circonstances adverses sont difficiles, il faut savoir saluer l'aurore, c'est-à-dire savoir vraiment que le Seigneur, eh bien, fait tout contribuer au bien de ceux qu'il aime. C'est ce que dit la parole de Dieu en Romains chapitre 8. Eh bien, il faut avoir ce regard d'espérance. C'est important parce que nous allons appréhender les difficultés différemment et notre comportement va être différent. Nous aurons un comportement modelé par la foi, et alors nous serons capables d'aimer dans le Seigneur malgré les circonstances extérieures ou malgré nos propres échecs, quand nous voyons que malgré tous nos efforts, malgré nos prières, eh bien le Seigneur bien sûr répond et travaille, mais il faut du temps et dans l'immédiat tout semble échouer et rien ne semble utile. Eh bien il ne faut pas céder au découragement, mais se souvenir de ce regard du prophète Isaïe, ce prophète inspiré qui s'est regardé au-delà des apparences. De même, dans les difficultés que nous pouvons connaître, eh bien, par rapport à nos frères, que nous ne les voyons pas changer malgré tous nos efforts pour les aimer, nous les voyons s'empêtrer toujours dans les mêmes difficultés, tout semble aller de plus en plus mal malgré nos prières, eh bien, il faut savoir saluer l'aurore, parce qu'un jour, nous dit la parole, eh bien, le fouet va tomber de leurs épaules, etc., et il y aura grande joie. C'est un comportement qu'il nous faut adopter, que Jésus lui-même a su avoir au jardin de Gethsémani, quand il était assailli par l'angoisse. Il a dit non pas ma volonté, Père, hein, quand il demandait au Père d'éloigner cette coupe, mais ta volonté, parce que Jésus a pu regarder plus loin et voir que sa crucifixion eh bien, serait utile au salut de toute l'humanité. Jésus a su, comme le dit l'Épître aux Hébreux, et par des supplications et des prières, il a pleuré pour que le Seigneur, il a supplié le Seigneur pour qu'il le livre de la mort, et ça a été fait par la résurrection, non pas en lui évitant la souffrance. Eh bien Jésus, c'est cette espèce de, on pourrait dire, d'accomplissement de ce regard d'Isaïe, car lui a été jusqu'au bout dans son humanité, il a vraiment traversé la mort par son espérance en la résurrection, et il a été exaucé, nous dit l'Épître aux Hébreux, il a ressuscité. Nous sommes appelés à traverser nos morts, nos vallées de l'ombre, comme dit le psaume 23, avec ce regard d'espérance. Alors je vous suggère maintenant d'aller un peu plus dans le texte, bien que tout a été quasiment dit, l'essentiel. Alors, dans les temps anciens, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Donc ici, je ne vais pas revenir sur le contexte historique, mais voyons un petit peu, il y a des passages dans notre vie, d'abord par rapport à nous-mêmes, dans notre vie intérieure notamment, ou des facettes entières, des pans entiers de notre vie qui sont loin du Seigneur et qui font notre honte quelque part, nous avons des défauts. Des défauts, et il nous semble que jamais ces défauts nous n'en viendront à bout, malgré nos prières, malgré nos efforts, notre désir de changer, ça reste toujours notre honte. Et on dit que le Seigneur a couvert de honte. Alors c'est-à-dire que le Seigneur semble laisser faire, et alors que si le texte attribue bien sûr ça au Seigneur, c'est pas forcément lui qui va faire exprès de nous mettre dans des situations difficiles, tel ce Dieu sadique, mais c'est une manière de dire que le Seigneur a tout en main, et que bien que les apparences semblent montrer que Dieu est en apparence donc est impuissant et que nous ne viendrons jamais à bout de ses défauts, ou alors nous voyons des gens pour qui nous prions et ces gens ils ont toujours ce comportement qui fait leur honte, eh bien le Seigneur semble laisser faire. Et le texte, en disant que le Seigneur c'est lui qui agit, qui est le sujet de l'action, nous montre qu'il sait ce qu'il fait et que en respectant notre liberté, eh bien, tout en respectant, pardon, notre liberté, il n'en reste pas moins que le Seigneur agit avec le temps et la victoire est là, le Seigneur a tout en main. C'est pareil pour notre société où tout semble partir, où tout le Seigneur semble perdre la face, si j'ose dire, eh bien, ayons confiance. Et je rappelle aussi que Nephtali veut dire mes luttes. Donc à travers nos luttes, ou les luttes dans lesquelles on voit s'empêtrer tous ces gens loin de Dieu pour qui nous prions, ou nos frères chrétiens, ou nous-mêmes donc, eh bien on a l'air de croire que ces luttes sont vouées à l'échec, comme Nephtali. Et Zabulon veut dire habitation, nous semblons habiter toujours dans nos défauts, ou nos frères semblent habiter dans leurs défauts. Eh bien ne perdons pas courage, tout comme Jésus qui sur terre a connu beaucoup d'échecs, beaucoup de rejets, eh bien ne perdons pas courage. Mais ensuite, dit le texte, il a couvert, donc Dieu, de gloire, donc toujours couvert de honte, couvert de gloire, hein, c'est intéressant ce contraste, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée, carrefour des païens. Alors d'abord, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser à Matthieu 4, où ce texte est cité pour montrer que Jésus, donc dans la Galilée méprisée des païens, eh bien Jésus est cette lumière. Et Jésus, n'oublions pas, est celui qui va venir voir les pécheurs, les publicains, les prostituées et tous ceux qui semblaient tellement loin, comme le pays au-delà du Jourdain, c'est-à-dire vraiment les païens, tout ce qui était loin de Dieu, eh bien Jésus vient et éclaire et couvre de gloire cette route de la mer. C'est-à-dire que ce qui fait, ce qui donne sens à nos combats malgré les échecs apparents, ce qui donne sens à nos prières pour nos frères, malgré leurs échecs apparents, ce qui donne sens à cette humanité malgré son éloignement de Dieu apparent, tout ce qui donne sens à cette situation présente, c'est qu'il faut avoir comme une route qui va éclairer par Jésus, qui va conduire vers, comment dire, la finalité et qui est entre les mains de Dieu. Et c'est cette regard d'espérance qui nous montre que le présent, malgré son manque de cohérence parfois, malgré les échecs, eh bien est une route que Dieu a sous contrôle et qui conduit à la victoire. Il faut s'en souvenir dans nos dépressions, dans nos découragements par rapport à nos prières d'intercession pour nos frères, par rapport à ce que nous pouvons voir dans la société. Et continuons le texte qui développe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Et le texte de Matthieu 4 montre que c'est le Christ. Donc dans nos Galilées, dans tous ces territoires comme Jésus, donc qui va ouvrir cette foi au-delà du Jourdain, le territoire des païens, c'est la Galilée symboliste qui va arriver dans les Actes des Apôtres avec toute l'histoire de l'Église, tout ce qui était loin de Dieu, tout ce que les Juifs considéraient comme perdu, eh bien va se retrouver comme happé par le Seigneur et par sa grâce. C'est ce que voit Paul en disant que les Juifs se sont détournés du Messie, si on veut, pour que les païens aient la voie ouverte vers Dieu. Et puis vers la fin des temps, Paul nous dit en Romains 9 et Romains 11, il y aura un seul homme nouveau, juif, païen à la fois. Eh bien, c'est une leçon ici, parce que malgré les apparences, toute personne la plus éloignée du Dieu qui soit, tous nos défauts les plus loin, les plus tenaces, les plus résistants à Dieu, eh bien ils vont connaître la lumière grâce au Christ. Il faut laisser le Christ agir et nos efforts par rapport à nos frères, en accompagnant nos prières, ou nos efforts par rapport à nous-mêmes, en accompagnant nos prières, n'ont de sens que si nous avons le Christ sous les yeux. C'est-à-dire que finalement nos efforts ne consistent pas à vouloir agir par nous-mêmes pour faire plaisir à Dieu, mais consistent à laisser Dieu agir davantage en nous. Et c'est un véritable effort, ce n'est pas facile quand on a une tendance naturelle, par exemple de se mettre en colère, d'agir par la force, ou de juger quelqu'un et de le mépriser, ou de dire il est irrécupérable, et bien se tourner vers Dieu pour qu'il nous pacifie et qu'il nous apprenne à avoir un comportement différent, de faire taire toutes ces voix de la Galilée, si vous voulez, tous ces Assyriens qui viennent nous assaillir, pour vraiment nous tourner vers Jésus et laisser cette lumière resplendir sur tout ce qui s'oppose à Dieu. Eh bien, ayons confiance, Jésus est celui qui peut vraiment faire lever son soleil dans toutes nos zones d'ombre, en nos cœurs, sur nos défauts, sur le cœur de nos frères et dans toute notre société. Et ici, il faut aussi voir une préfiguration de tout ce qu'est la mort. La mort était une route vers la mort, vers une route vers le désastre, vers le néant, vers la peur. Et Jésus est celui qui a rempli de lumière ce qui au début était un échec. La mort sanctionne le péché. C'est le texte de la Genèse qui le dit, hein, en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, en se séparant de Dieu, la mort est entrée. Paul lui-même dit que le péché c'est la mort. Eh bien Jésus est celui qui va faire resplendir sa lumière sur la mort et qui va faire de la mort une route vers la mer de grâce, comme on voit dans l'Apocalypse, cette espèce de mer de jaspe, etc. Eh bien ce qui était source de terreur et de néant devient source de résurrection. C'est valable pour la mort, mais c'est aussi valable pour nos comportements, etc. Donc ayons bien conscience que le Seigneur peut arriver à bout de toute chose, des défauts les plus tenaces. Il faut de la patience et ne pas se décourager. Et ici, ce qui est beau, c'est Zabulon et Nephtali couverts de honte et après couverts de gloire. Non seulement le Seigneur peut nous aider à vaincre nos défauts, mais il peut faire bien plus. Il peut transformer nos défauts en qualité. C'est-à-dire que ce qui peut être un défaut peut après, quand c'est travaillé par le Seigneur avec le temps, eh bien quand on soumet ça à la lumière du Christ qui vient tout éclairer, eh bien ce peut devenir de merveilleuses qualités. Par exemple, quelqu'un qui a tendance à être colérique peut devenir passionné. Cette énergie, si vous voulez, quelqu'un qui est possessif, eh bien à force de travail avec l'aide de la grâce sur soi, peut-être justement, sûrement d'ailleurs, être l'inverse de possessif, ou alors transcender cette possessivité pour que justement cette énergie qui a tendance à tout accaparer, eh bien se transforme en don pour les personnes qu'il aime, au lieu de se transformer en jalousie. Vous voyez, le Seigneur peut transformer ce qui nous couvre de honte en manteau de gloire, c'est ce que dit ce texte. Et alors ici nous sommes appelés par le prophète Isaïe, justement avec cette vision du Christ qui nous ouvre les ténèbres, qui peut dans nos zones d'ombre, les zones d'ombre chez nos frères, qui peut nous donner ce regard, si nous savons que le Christ agit dans l'invisible et que tout est une question de temps. Eh bien, alors nous sommes appelés à avoir ce regard d'Isaïe face au désastre qui s'est abattu sur Zabulon et Nephtali. Alors le texte peut vraiment dire, tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie, ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. J'aime bien cette idée de moisson, c'est-à-dire que même si là c'est l'époque de la semence et que tout semble aller mal dans le royaume du Nord, Isaïe voit déjà la moisson, cette moisson de joie où le mal sera vaincu et on pourra vraiment tout entasser sur les dépouilles des démons, du mal de Satan. Eh bien nous sommes appelés à faire la même chose dans nos vies. Quand nous voyons que nos défauts sont si tenaces, que nous retombons dans les mêmes travers, mais que nous faisons confiance pour laisser éclairer cette zone d'ombre par l'amour du Christ qui travaille en nous, eh bien nous sommes appelés à avoir ce regard d'espérance. Tout comme dans cette vie, nous sommes appelés non pas à voir la mort comme quelque chose de terrible, mais comme un passage vers l'espérance et vers la joie. Et de même, quand nous voyons nos frères et notre société se détourner de plus en plus de Dieu malgré nos prières, nos intercessions, ayons confiance dans ce Christ qui voyage dans la Galilée et qui va couvrir de gloire ce qui était un sujet de honte chez nos frères, chez nous, dans cette société. Avec le temps, oui, la moisson viendra. Et voilà ce que dit le texte en conclusion, car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Alors d'abord, je ferai remarquer que parfois nous aimons bien nos petits défauts, nos frères semblent heureux sans Dieu, et pourtant le texte, la parole de Dieu nous dit que c'est un joug sur les épaules, ils sont esclaves, nous sommes esclaves. Ne pensons pas que le péché nous donne la joie. D'ailleurs, nous le savons très bien. Pour un petit passage passager, les conséquences sont souvent terribles. Vous voyez, par exemple, si quelqu'un cède à toute cette vague de pornographie dans cette société, ou tout ce côté un petit peu vicieux, eh bien, c'est peut-être un plaisir immédiat, mais après, quel esclavage ! Quel esclavage même dans un couple, ou alors l'autre est regardé comme une source, c'est celui qui nous donne du plaisir, donc on est prêt à s'aplatir pour avoir ce plaisir, on devient dépendant de l'autre, et alors on essaie de l'accaparer justement pour avoir ce que nous voulons, et alors c'est un véritable esclavage. Et il y a bien d'autres exemples, hein. Là je prends cet exemple-là, mais eh bien, il faut en être persuadé, que d'ailleurs on s'en rend bien compte, que pour un petit plaisir immédiat, souvent les conséquences à long terme, quand on regarde bien avec lucidité, eh bien c'est un esclavage des chaînes dont il est difficile de se débarrasser. Ce sont des dépressions à répétition. Et de même, chez nos frères, croyons bien que ce qui est valable pour nous est valable pour eux. Ils ont l'air contents à s'éclater, tout ça. Mais quel vide, car après la boisson, il y a la gueule de bois, si j'ose dire. Alors il faut vraiment redoubler de prières pour nous-mêmes et pour nos frères, sachant que le Seigneur est celui qui peut vraiment briser le bâton qui meurtrissait nos épaules. Et même si les apparences sont contraires, même s'il faut du temps, le Seigneur peut libérer. Comme le Seigneur a été voir les pécheurs, il a libéré les prostituées et les publicains, il nous a libérés de l'esclavage de la mort, comme dit l'Épître aux Hébreux, en nous donnant la vie éternelle. Il peut maintenant nous libérer de tous nos défauts. Il peut aussi libérer nos frères de ce qui les emprisonne, dont nous-mêmes nous ne sommes pas toujours conscients d'ailleurs, car nous ne connaissons pas nos frères à fond. D'ailleurs, nous ne connaissons pas d'ailleurs tout ce qui nous maintient esclaves. Alors, ayons confiance, toujours les yeux rivés vers le Christ, ayons confiance et soumettons-nous à sa lumière pour qu'il éclaire toutes nos ondes d'ombre et que petit à petit, eh bien, ce qui nous couvre de honte puisse nous couvrir de gloire. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager. Et je vous propose maintenant un petit temps de prière pour vraiment assimiler ce texte. Mais d'abord, prions le Seigneur pour qu'il nous guide dans cette petite méditation qui va conclure ce commentaire. Je te prie, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, afin que tu viennes écarter tout nuage, toute ténèbre qui, par le fait de nos péchés, pourrait obscurcir notre vue. Donne-nous l'intelligence spirituelle et merveilleuse de ta parole, selon le mot du psalmiste, « Ouvre mes yeux et je contemplerai les merveilles de ta loi. » Ô Seigneur, augmente en nous la foi. Quand le doute arrive, quand le découragement arrive, vraiment aide-nous à nous souvenir de ce texte, que tu peux couvrir de gloire ce qui est pour nous source de honte, ou ce qui pour nos frères est source de honte, ce que nous voyons en tout cas comme source de honte avec notre regard de lucidité. Apprends-nous, Seigneur, que toi, tu es là, tu marches dans cette Galilée, dans ce péché, pour éclairer les ténèbres. Ce n'est qu'une question de temps avant la victoire. Alors, fort de cette espérance, Seigneur, nous nous ouvrons toujours, nous et nos frères, pour qui nous prions, à cette lumière, pour que tu viennes vraiment nous libérer, nous éclairer. Oui, Seigneur, nous te confions aussi, vraiment, nous avons parfois conscience de certains défauts qui nous couvrent de honte, qui sont la source de malheur pour nous. Nous savons, très bien que toi, tu peux transformer tout ce qui est mal en bien. Alors, Seigneur, nous te confions maintenant tous les aspects de notre vie, notamment de nos défauts, de ce qui nous fait mal en nous, pour que vraiment, eh bien, tu transformes cette source de honte en source de gloire. Amen. Et je vous propose cette petite prière pour assimiler vraiment tout ce que nous venons de vivre. Oui, Seigneur, donne-nous l'intelligence plus claire de tes autres prophéties, ouvre davantage nos sens à la vérité et fais-nous comprendre ce que tu as inspiré. En toi, Christ Jésus, notre Seigneur, à qui appartient la gloire et la puissance. Amen. Fin de l'enregistrement.